Cinquième cassette, deuxième face, page 175, chapitre 4. Plus de village. Contre le ciel, les premières des montagnes dont Perken attendait sa délivrance. En bas, la rivière. À la surface de la forêt, le vol lourd des oiseaux et des papillons glissait en reflets. Mais devant les moilles que la colonne rabattait jusqu'à l'horizon, les petits animaux, les singes surtout, fuyaient avec une panique d'incendie. Ils passaient la rivière par centaines, semblables à des tourbillons de feuilles lorsqu'ils arrivaient, à des chats lorsqu'ils s'arrêtaient au bord de l'eau, la queue en l'air. Un gros s'agitait au milieu de l'eau, sur une pierre sans doute. À la jumelle, Claude le voyait très distinctement, occupé à arracher de son dos, avec un air de chien mouillé, les petits qui s'y cramponnaient. Sur l'autre rive, il disparaissait en coups de vent, dans des claquements de branches, et leur fuite, apparue entre les deux rives de la forêt, reliait l'eau éblouissante à la grande courbe de l'exode des tribus. Les feux, allumés maintenant toute la journée, tendaient sur les pentes des écharpes de fumée. Même la grande lumière de midi, en ce moment, ne les résorbait pas. Elles avançaient peu à peu, à mi-chemin des montagnes, vers le sentier que suivaient les Blancs, sans le moindre vent. Une avance humaine, comme le piétinement assourdi d'une armée. La fumée de chaque nouveau feu, plus menaçante que la présente par sa position, montait verticalement, épaisse, avant que son panache désagrégé ne rejoignît les chats. Et Claude regardait à 1 kilomètre en avant, angoissé, attendant qu'une nouvelle fumée montât, comme un tour de clé dans une serrure. Celle-ci va devenir un feu. Encore une, et nous ne passons plus. Perken ne rouvrait pas les yeux. Il y a des moments où j'ai l'impression que cette histoire n'a aucun intérêt, dit-il comme pour lui-même, entre ses dents. D'être coupé? Non. La mort. Au-delà des montagnes, le territoire de Perken, défendu par elle, écrasé par la solitude de ses crêtes sans feu. De l'autre côté, le chemin de fer. Que Perken mourût, Claude serait rejeté au bas-relief qui l'attendait. Jamais les Stiengs seuls n'oseraient attaquer la ligne. Perken plongeait dans les bétudes. Tout près de ses oreilles, des moustiques croisaient leur fin bourdonnement. La douleur des piqûres, transparente, recouvrait comme un filigrane celle de la blessure. Elle montait et descendait, elle aussi, envenimant la fièvre, contraignant Perken, pour qu'il parvint à ne pas se toucher, à une lutte de cauchemar, comme si l'autre douleur eût été à l'affût de lui-même, avec celle-ci pour appôt. Un son de chair le surprit. C'était ses doigts fascinés par la brûlure des insectes qui tambourinaient convulsivement sur la charrette, sans qu'il s'en fût aperçu. Tout ce qu'il avait pensé de la vie se décomposait sous la fièvre, comme un corps dans la terre. Un chaos plus brutal le ramenait à la surface de la vie. Il y revenait en cette seconde, tiré vers la conscience par la phrase de Claude et le mouvement en avant de la charrette qu'il ne pouvait séparer. Si faible qu'il ne reconnaissait pas ses sensations, que cet intolérable réveil le rejetait à la fois dans une vie qu'il voulait fuir et en lui-même qu'il voulait retrouver. Appliquer sa pensée à quelque chose. Il essaya de se soulever pour regarder le nouveau feu, mais avant qu'il n'eût bougé, une mine sauta, loin devant lui. La terre retomba avec un grand mouvement mou. Les chiens des moilles commencèrent à hurler. Il n'y a que la colonne qui compte, Claude. Tant que le chemin de fer ne sera pas terminé, on pourra l'atteindre. Toutes les communications sont en profondeur. Il faudrait les couper assez loin en arrière, isoler la tête de ligne, saisir les armes. Ça n'est pas impossible, pourvu que j'arrive. Saloperie de fièvre. Quand j'en sors, je voudrais au moins... Claude, je t'écoute, voyons. Il faudrait que ma mort au moins les oblige à être libres. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Perkin avait fermé les yeux. Impossible de se faire comprendre d'un vivant. Tu ne souffres de nouveau plus, sauf au cas où trop dur. Mais je suis trop faible pour que ce soit naturel. Ça va recommencer. Il regarda la cime des montagnes, puis la colline où la mine venait de sauter. Pour fixer ses jumelles, il dut s'appuyer sur le bois de la charrette. Sa tête ballottait de droite et de gauche. Enfin, il l'immobilisa. Maintenant, je ne pourrai même plus tirer. Là-haut, les buffles apportaient les traverses que les siamois faisaient basculer et repartaient avec une sûreté de machine, tournant autour de la dernière, comme Grabot dans sa case. Chaque traverse qui tombait sans le moindre son, comme dans un autre monde, retentissait dans son genou. Ce n'était pas seulement sur ses espoirs, mais sur son vrai cadavre, sur ses yeux pourris, sur ses oreilles mangées par la terre, que passerait cette ligne qui avançait en bélier vers les montagnes de l'horizon. Ces chutes de bois sonores, qui ne lui parvenaient pas, il les entendait de seconde en seconde dans les battements de son sang. Il savait à la fois que chez lui, il guérirait et qu'il allait mourir. Que sur la grappe d'espoir qu'il était, le monde se refermerait, bouclé par ce chemin de fer comme par une corde de prisonnier. Que rien dans l'univers, jamais, ne compenserait plus ses souffrances passées ni ses souffrances présentes. Être un homme, plus absurde encore qu'être un mourant. De plus en plus nombreuses, immenses et verticales dans la fournaise de midi, les fumées des moilles fermaient l'horizon comme une gigantesque grille. Chaleur, fièvre, charrette, brûlure, aboiement, ces traverses jetées là-bas comme des pelletées sur son cœur, se confondait avec cette grille de fumée et la puissance de la forêt, avec la mort même, dans un emprisonnement surhumain, sans espoir. Au-delà du champ des moustiques, les chiens maintenant hurlaient d'un bout à l'autre de la vallée. D'autres, derrière les collines, répondaient. Les cris emplissaient la forêt jusqu'à l'horizon, comblant de leur profusion les espaces libres entre les fumées. Prisonnier, encore enfermé dans le monde des hommes comme dans un souterrain, avec ses menaces, ses feux, cette absurdité semblables aux animaux d'écart. À côté de lui, Claude, qui allait vivre, qui croyait à la vie comme d'autres croient que les bourreaux qui vous torturent sont des hommes, haïssables. Seul avec la fièvre qui le parcourait de la tête aux genoux et cette chose fidèle posée sur sa cuisse, sa main. Il l'avait vue plusieurs fois ainsi depuis quelques jours, libre, séparée de lui. Là, calme sur sa cuisse, elle le regardait, elle l'accompagnait dans cette région de solitude où il plongeait avec une sensation d'eau chaude sur toute la peau. Il revint à la surface une seconde, se souvint que les mains se crispent quand l'agonie commence. Il en était sûr. Dans cette fuite vers un monde aussi élémentaire que celui de la forêt, une conscience atroce demeurait. Cette main était là, blanche, fascinante, avec ses doigts plus hauts que la paume lourde, ses ongles accrochés au fil de la culotte comme les araignées suspendues à leur toile par le bout de leurs pattes sur les feuilles chaudes. Devant lui, dans le monde informe où il se débattait, ainsi que les autres, dans les profondeurs gluantes. Non pas énorme, simple, naturel, mais vivante comme un œil. La mort, c'était elle. Claude le regardait. Le hurlement des chiens sauvages s'accordait à ce visage ravagé, pas rasé, aux paupières abaissées, dont le sommeil était si absent qu'il ne pouvait exprimer que l'approche de la mort. Le seul homme qui eût aimé en lui ce qu'il était, ce qu'il voulait être, et non le souvenir d'un enfant. Il n'osait pas le toucher. Mais la tête heurta le bois de la charrette. Claude la souleva, la cala avec le casque, dégageant le front. Perkin ouvrit les yeux. Le ciel l'envahit, écrasant et pourtant plein de joie. Quelques branches sans insectes passaient entre le ciel et lui, frémissantes comme l'air, comme la dernière Laotienne qui l'eût possédée. Il ne savait plus rien des hommes, plus rien même de la terre qui dévalait sous lui avec ses arbres et ses bêtes. Il ne connaissait plus que cette immensité blanche à force de lumière, cette joie tragique dans laquelle il se perdait et qu'emplissait peu à peu le sourd battement de son cœur. Il n'entendait plus que lui, comme si lui seul eût pu s'accorder à la fournaise qui arrachait son âme à la forêt, comme s'il eût seul exprimé la réponse obsédante de sa blessure à ce ciel sacré. Il me semble que je me jouerai moi-même sur l'heure de ma mort. La vie était là, dans l'éblouissement où se perdait la terre, l'autre dans le martèlement lancinant de ses veines. Mais elle ne luttait pas. Ce cœur cesserait de battre, se perdrait lui aussi dans l'appel implacable de la lumière. Il n'avait plus de mains, plus de corps sauf sa douleur. Que signifiait ce mot « déchéance » Ses yeux brûlaient sous ses paupières comme des lames. Un moustique se posa sur l'une d'elles. Il ne pouvait plus bouger. Claude cala sa tête avec la toile de tente, ramena son casque et l'ombre le rejeta en lui-même. Il se revit tombé ivre dans une rivière, chantant à pleine gorge au-dessus du clapotement de l'eau. Maintenant aussi, la mort était autour de lui, jusqu'à l'horizon, comme l'air tremblant. Rien ne donnerait jamais un sens à sa vie, pas même cette exaltation qui le jetait en proie au soleil. Il y avait des hommes sur la terre, et il croyait à leur passion, à leur douleur, à leur existence. Insectes sous les feuilles, multitudes sous la voûte de la mort. Il en ressentait une joie profonde qui résonnait dans sa poitrine et dans sa jambe, à chacun des battements de son sang au poignet, aux tempes, au cœur. Elle martelait la folie universelle perdue dans le soleil. Et pourtant, aucun homme n'était mort, jamais. Ils avaient passé comme les nuages, qui tout à l'heure se résorbait dans le ciel, comme la forêt dans les temples, lui seul allait mourir, être arraché. Sa main reprit vie. Elle était immobile, mais il y sentait l'écoulement du sang dont il entendait le son fluide qui se confondait avec celui de la rivière. Ses souvenirs, eux aussi, étaient là à l'affût, retenu par la demi-crispation de ses doigts menaçants. Comme le mouvement des doigts, l'envahissement des souvenirs annonçait la fin. Il tomberait sur lui à l'agonie, épais comme ces fumées qui venaient avec le son lointain des tam-tams et les aboiements des chiens. Il serra les dents, ivre de fuir son corps, de ne pas abandonner ce ciel incandescent qui le prenait comme une bête. Une douleur épouvantable, une douleur de membres arrachés, s'abattit sur lui du genou à la tête. Une galerie l'attendait, prête à s'effondrer, profondément enfouie sous la terre. Il se mordit si profondément que le sang commença à couler. Claude vit le sang sourdre entre les dents, mais la souffrance protégeait son ami contre la mort. Tant qu'il souffrait, il vivait. Soudain, son imagination le jeta à la place de Perkin. Jamais il n'avait été si attaché à sa vie qu'il n'aimait pas. Le sang coulait en rigole sur le menton comme celui de la balle naguère sur le gore, et il n'y avait rien à faire qu'à regarder ses dents rouges qui mordaient et attendre. Si je me souviens, pensait Perkin, c'est que je vais mourir. Toute sa vie était autour de lui, terrible, patiente, comme l'avaient été les Stieng autour de la case. Peut-être ne se souvient-on pas, il guettait son passé autant que sa main. Pourtant, malgré sa volonté et sa douleur, il se revoyait jetant son colt et marchant contre les Stieng sous la lumière diagonale du soir. Mais cela ne pouvait annoncer sa mort. Il s'agissait d'un autre homme, d'une vie antérieure. Comment vaincrait-il en arrivant chez lui ces mines qui martelait sa fièvre. La souffrance revenant, il sut qu'il n'arriverait jamais chez lui, comme s'il l'eût appris du goût salé de son sang. Il déchirait de douleur la peau de son menton, les dents brossées par la barbe dure. La souffrance l'exaltait encore, mais qu'elle devint plus intense, et elle le transformerait en fou, en femme en travail qui hurle pour que s'écoule le temps. Il naissait encore des hommes par le monde. Ce n'était pas sa jeunesse qui revenait en lui, ainsi qu'il l'attendait, mais des êtres disparus, comme si la mort eût appelé les morts. Qu'on ne m'enterre pas vivant, mais la main était là, avec les souvenirs derrière elle, comme les yeux des sauvages l'autre nuit dans l'obscurité. On ne l'enterrerait pas vivant. Le visage a imperceptiblement cessé d'être humain, pensa Claude. Ses épaules se contractèrent. L'angoisse semblait inaltérable comme le ciel au-dessus de la lamentation funèbre des chiens qui se perdaient maintenant dans le silence éblouissant. Face à face avec la vanité d'être homme, malade de silence et de l'irréductible accusation du monde qu'est un mourant qu'on aime. Plus puissant que la forêt et que le ciel, la mort empoignait son visage, le tournait de force vers son éternel combat. Combien d'êtres à cette heure veillent de semblables corps? Presque tous ces corps, perdus dans la nuit d'Europe ou le jour d'Asie, écrasés eux aussi par la vanité de leur vie, pleins de haine pour ceux qui au matin se réveilleraient, se consoleraient avec des dieux. Ah, qu'il en existât, pour pouvoir au prix des peines éternelles hurler comme ces chiens, qu'aucune pensée divine, qu'aucune récompense future, que rien ne pouvait justifier la fin d'une existence humaine, pour échapper à la vanité de le hurler au calme absolu du jour, à ses yeux fermés, à ses dents ensanglantées qui continuaient à déchiqueter la peau. Échapper à cette tête ravagée, à cette défaite monstrueuse. Les lèvres s'entrouvraient. Il n'y a pas de mort. Il y a seulement moi. Un doigt se crispa sur la cuisse. Moi qui vais mourir. Claude se souvint haineusement de la phrase de son enfance. « Seigneur, assistez-nous dans notre agonie. » Exprimée par les mains et les yeux, sinon par les paroles, cette fraternité désespérée qui le jetait hors de lui-même. Il l'étreignit aux épaules. Perkin regardait ce témoin étranger comme un être d'un autre monde. Fin du roman. Écoute quand même ce qui va suivre, je pense que c'est susceptible de t'intéresser. Je me permets d'ajouter au roman quelques indications sur ses rapports avec la vie personnelle d'André Malraux. André Malraux est né en 1901, il est mort en 1976, il est parti pour l'Indochine en 1923 et il a écrit ce roman en 1930. Voici ce que dit de l'atmosphère de son voyage de 1923. Jeannine Moussu-Laveau, M-O-U-2-S-U-Z, trait d'union L-A-V-A-U, dans son livre « André Malraux, qui êtes-vous ?», édité par La Manufacture en 1987. Les arts orientaux n'ont guère de secret pour André Malraux, ni les lieux où l'on peut en admirer les vestiges. Il sait que Gise, au sein de la jungle cambodgienne, les restes du petit temple de Banteay Sreay, Banteaytrema, plus loin Srey, joyaux agrémentés de superbes statues. Pourquoi ne pas se rendre là-bas, déceler quelques pièces rares, les vendre à de riches amateurs, américains par exemple, et ainsi assurer pour 2 ou 3 années du moins l'avenir financier du couple. André Malraux s'est marié 2 ans avant avec Clara Goldschmidt, très riche, mais ils sont maintenant ruinés. André et Clara partent donc, accompagnés de Louis Chevasson, C-H-E-V-A-2-S-O-N, un ancien compagnon d'école d'André. En novembre 1923, ils atteignent Saïgon, loin de se douter que l'expédition leur réserve quelques surprises. Ils réussissent à rompre la pierre de Banteay Sreay, à coucher dans de grandes malles transportées sur des charrettes tirées par des buffles, quelques sculptures magnifiques, et même à les faire charger sur le bateau qui doit, dans un premier temps, les ramener à Phnom Penh. P-N-O-M, plus loin, P-E-N-H. Je te rappelle que Phnom Penh est la capitale du Cambodge et Saïgon, la capitale de la Cochinchine, aujourd'hui Sud-Vietnam. Mais le 24 décembre 1923, vers minuit, 2 inspecteurs de la Sûreté nationale montent à bord, font ouvrir les caisses et saisir les œuvres d'art qu'elles renferment. Louis Chevasson et André Malraux sont inculpés. Ils ont porté atteinte au patrimoine artistique du pays, mais laissés en liberté. Ils subissent un procès qui se déroule à Phnom Penh en juillet 1924, au terme d'une instruction très défavorable au jeune écrivain. La presse locale se déchaîne contre les accusés, traités de vandales et pilleurs de ruines, considérés par certains comme de redoutables agents secrets. Le verdict est sévère. 3 ans de prison ferme pour Malraux, 18 mois pour Chevasson, les sculptures restant pour leur part aux mains des autorités locales. Les avocats font appel et un nouveau procès est prévu pour septembre. Grâce aux efforts de Clara, qui, rentrée en France, mobilise les signatures et témoignages de nombreux artistes et intellectuels, d'André Gide, G-I-D-E, à Max Jacob, en faveur de son audacieux époux, et en dépit des campagnes engagées sur place par la presse et l'administration coloniale, les peines sont fortement réduites. un an de prison pour Malraux, 8 mois pour Chevasson, le tout accompagné du sursis. Les deux amis peuvent reprendre le bateau pour la France. Fin de la cassette.